Ce message vous est proposé gratuitement.
Gratuitement.
Et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Donc je désire que nous puissions partager certaines choses concernant l'Église de Jésus-Christ et la volonté de Dieu concernant son Église qu'il bâtit. Et je voudrais prendre un texte à nouveau de base. Vous vous rappelez quand Pierre a eu cette révélation dans Matthieu 16, Jésus avait posé cette question, « Qui suis-je au dire des hommes, moi le Fils de l'homme ?» Ils ont donné toutes sortes de réponses. C'était assez intéressant d'ailleurs que certaines personnes disent qu'il soit Jean-Baptiste ou Élie ou Jérémie ou l'un des prophètes. C'est étonnant parce que ces gens sont morts. Est-ce qu'ils croyaient à la résurrection ou à la réincarnation? C'est un peu bizarre cette chose. Mais le plus important pour nous, c'est que Simon-Pierre a eu cette révélation. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur ce roc, » il est dit dans ma version « ce roc », il n'est pas dit « Pierre », pour qu'il n'y ait pas confusion entre Pierre avec un P majuscule, qui est l'apôtre Pierre, et Pierre avec un P minuscule, qui est la désignation d'un caillou. Mais un caillou, ce serait vraiment alors minimiser un caillou. On imagine quelque chose de petit, de rond. Alors, une pierre, c'est quelque chose de plus impressionnant. Alors, on a utilisé le mot roc pour dire, voilà, c'est un rocher, c'est quelque chose qui est dur, qui est résistant. On peut construire dessus. Je bâtirai mon église sur ce roc. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, ce que tu déliras sur la terre sera délié dans les cieux. Et je ne lis pas la suite parce que c'était seulement dans le contexte. Donc plusieurs points importants ici. Premièrement, Jésus a dit « Je bâtirai mon église ». Un pasteur a dit une fois « Oh, qu'est-ce que je suis content que c'est le Seigneur qui bâtit et pas nous. » Et donc, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Premièrement, qu'on peut être découragé dans le ministère de bâtir. On dit, pourvu que ça soit le Seigneur, il le fait mieux que nous. Ou ça peut vouloir dire, si je bâtis à ma façon, mais le Seigneur a sa façon à lui de bâtir. Ou alors, ça peut vouloir dire... que c'est lui qui a le contrôle de la façon dont l'Église doit être bâtie. Mais moi, je crois que ce qui est important ici, c'est que quand il dit « je bâtirai mon Église », ça veut dire qu'il a cette pensée constante de l'édification du corps. Et nous, est-ce que nous l'avons? Est-ce que nous sommes vraiment en souci de l'édification du corps? Et je parle de cet ensemble qu'est l'Église. Est-ce que nous voulons la construire? Jésus veut la construire. Et il l'a construit visiblement avec nous. Quand nous voyons comment l'apôtre Paul parlait, je ne vais pas prendre tous les passages, mais dans Corinthiens, il est beaucoup question de ça. Il dit à un moment que nous sommes co-ouvriers avec Dieu. Ça veut dire qu'on a une part où nous aussi nous construisons. Il dit que j'ai bâti comme un sage architecte. Vous voyez, si on prend la réflexion qu'on a eue à l'instant, c'est Jésus qui bâtit et pas nous. On dit, mais attends, Paul, est-ce que tu es en train d'interférer avec ce que Jésus veut faire? Non, c'est simplement qu'il reçoit de Dieu les pensées, comment construire. Et comme un sage architecte, il bâtit, il se considère co-ouvrier avec Dieu. Il dit, et d'autres construisent encore dessus. Et ça se fait ensemble. L'Église n'est pas l'invention de l'homme. Ce n'est pas quelque chose comme... une religion, chaque religion qui existe, elle a ses lieux de rassemblement, elle a ses dogmes, ses croyances, elle a des choses qu'elle veut accomplir, mais l'Église est différente dans sa nature. On doit le comprendre. Ce n'est pas parce qu'au fil des siècles, l'Église est souvent devenue une religion Et chaque fois qu'il y a eu un vent de réforme, dans un premier temps, il y a eu un mouvement de l'Esprit de Dieu qui nous a ramenés vers ce que l'Église devait être. Et au bout d'un moment, ça s'en éloigne de nouveau. N'est-ce pas la constatation que nous faisons? Chaque fois, il y a un souffle de l'Esprit de Dieu et au bout d'un moment, il y a nouveau un immobilisme. Et chaque fois qu'il y a un souffle nouveau, ceux qui veulent apporter quelque chose de nouveau sont le plus persécutés par ceux qui viennent juste de s'immobiliser. C'est ceux qui sont les persécuteurs directs, c'est ceux qui ont juste choisi de s'immobiliser. Donc nous devons réaliser que Jésus bâtit son Église, il veut que ça soit tout le temps en mouvement, parce que c'est un organisme vivant, c'est un être vivant, c'est son épouse. Elle bouge, elle évolue avec son temps. Ça ne veut pas dire qu'on renonce à certains principes de foi, c'est pas la question. Mais l'Église a besoin d'évoluer. Notre Église aussi, Église locale, on a besoin d'évoluer par rapport aux gens que nous sommes et aux gens que nous voulons voir faire partie du royaume de Dieu. On a besoin d'évoluer tout le temps, tout le temps, tout le temps. On a déjà partagé il n'y a pas longtemps cette question, quelle Église voulons-nous? Et la question est importante parce que nous devons voir un moment que nous allons bâtir selon ce que nous désirons. N'est-ce pas vrai? Votre maison, si vous avez construit une maison, vous l'avez construite d'après ce que vous désiriez. Si vous avez acheté une maison, vous l'avez transformée selon vous désirez. Vous pouvez la décorer selon ce que vous désirez. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est en vous, que vous aimez, que vous voulez voir. Donc ce n'est pas quelque chose qui est forcément négatif de dire ce que nous voulons. Parce que ce que nous voulons, peut-être d'autres le veulent aussi. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde le veut. Comprenez la différence? J'ai eu cette pensée ce matin, calquée sur cette expression de Jésus quand il a dit « Le sabbat a été fait pour l'homme et non pas l'homme pour le sabbat. » Et je dirais que l'Église a été faite pour l'homme, l'être humain ou la femme, mais pas l'être humain pour l'Église. Comprenez la différence? La différence, c'est que lorsque l'Église de Jésus-Christ devient une religion, c'est quelque chose qui est figé et on essaye d'y mettre dedans les hommes et les femmes. Et ce n'est pas toujours adapté. Vous comprenez ça? Quand quelqu'un dans la rue, par exemple, il a un besoin ou désirait qu'il devienne chrétien, trop souvent dans le passé, on a pris la personne, on a dit « voilà ». Il faut te transformer un petit peu, tes cheveux sont trop longs, tu devrais te raser, tu devrais changer de vêtements, tu devrais faire ceci, cela, pour que tu ressembles à un chrétien, et alors tu peux être dans, comme nous tous, et maintenant tu es accepté, et c'est prendre les choses à l'envers. Moi je crois que c'est très important qu'on le réalise ça. Donc il se peut que, par nos habitudes, par notre style, ça puisse plaire à un certain nombre de personnes. Si on arrive à gagner ces personnes qui sont un peu comme nous, tout va bien se passer. Mais, si on considère les masses de gens qui ne sont pas comme nous, il faut qu'on réalise quelle Église Jésus veut bâtir. Et là, c'est pas une question de style ou de forme ou de ceci, cela. C'est la façon dont nous communiquons l'Évangile, avant tout. Et c'est pour ça qu'il faut se poser la question... À quoi sert l'Église avant tout? L'Église, on a déjà utilisé cette expression. J'avais fait un message où je disais, est-ce que nous sommes un chrétien pertinent? Pertinent, quelqu'un qui est pertinent, c'est quelqu'un qui pose, par exemple, une question pertinente. C'est une bonne question au bon moment, qui fait réfléchir à quelque chose ou qui amène un sujet qui est important. Une Église pertinente, c'est une Église, quand on la regarde, on ne dit pas... Ils sont complètement décalés par rapport au reste du monde. Mais on dit, c'est des gens qui ont quelque chose à dire au monde qui les entoure. Ça, c'est pour moi une Église pertinente. Une Église qui répond à des besoins, qui répond à des questions, qui apporte une solution. Donc, à quoi sert l'Église? L'Église sert seulement si elle apporte de vraies réponses aux gens qui ont des problèmes, qui ont des questions. Et je reprends ce slogan qu'on avait mis une fois sur notre vision. L'Église, elle doit apporter quelque chose qu'on ne trouve nulle part ailleurs. On peut donner des illustrations simples. Où dans le monde trouve-t-on une vraie réponse à la mort et à après la mort telle que l'Église de Jésus-Christ peut la donner? Peut-être que d'autres religions vous racontent quelque chose de après la mort. C'est pas la question. Mais nous, nous apportons la réponse. La réponse par rapport à l'au-delà, la réponse par rapport à la résurrection, la réponse par rapport à la vie éternelle. D'accord? Ça, c'est quelque chose que tout le monde, ici, nous pouvons saisir et comprendre. Que nous avons une vraie réponse par rapport à l'au-delà. Que les autres le croient ou ne le croient pas, c'est leur problème à la rigueur. Vous comprenez ce que je veux dire? L'important, c'est que vous sachiez, vous le savez, nous avons les réponses que les gens se posent, des questions qu'ils se posent. Nous les avons. Quand vous voyez quelqu'un qui meurt, et tout le temps, les gens meurent autour de nous. Quelqu'un qui meurt, on peut se poser la question, nous, où est-il maintenant? Où est-il pour l'éternité? Nous ne savons pas répondre pour cette personne. Il n'y a que Dieu qui voit au cœur. Il n'y a que lui qui a vu l'évolution de cette personne. Même si quelqu'un confesse de sa bouche, nous, on peut supposer que c'est un chrétien. Mais on ne peut pas le savoir, parce que Dieu seul sait s'il y a cette coordination entre le cœur et l'expression de la foi. Nous, on peut penser que quelqu'un est chrétien parce qu'il parle comme un chrétien, parce qu'il agit comme un chrétien, mais quelqu'un peut aussi être d'extérieur comme un chrétien et pas à l'intérieur. Et nous savons qu'à l'inverse aussi, il y a des gens qui ont été sauvés comme au travers du feu. En dernière minute, une conversion. Encore se tourner vers Dieu. Tant mieux pour eux. Donc, à quoi sert l'Église? Comme elle a les réponses concernant la vie, la mort, les choses essentielles, on peut aussi avoir les autres réponses. Pour ça, il faut qu'on connaisse la parole de Dieu, qu'on connaisse intimement Dieu et qu'on connaisse aussi ce qu'il veut faire dans la vie de chacun d'entre nous. On a besoin de se former pour ça, pour apporter les réponses. Jésus bâtit. Alors, quel genre d'église veut-il bâtir? Une église qui apporte des réponses et des solutions. Notre regard, comme on a pu citer Jean 3,16 souvent, notre regard doit être tourné vers le monde. Je ne suis pas ici maintenant pour donner les détails de « nous sommes pas du monde, nous sommes dans le monde », tout ça. Je ne dis pas d'aimer le monde, le système du monde. Je dis de tourner nos regards et de les fixer sur les gens qui sont dans le monde. Vous comprenez ça? Je ne dis pas de maintenant devenir tellement ami avec tout le monde que votre vie chrétienne va être complètement dissoute. Vous comprenez la différence? On cherche des fois à se faire tellement d'amis dans le monde qu'à la fin on en oublie nos convictions et on oublie d'enraciner notre foi. Il nous est aussi dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ça veut dire que si vous êtes tout le temps dans une compagnie de quelqu'un qui est négatif, qui ne croit pas ci, qui ne croit pas ça, etc., ça aura un impact sur votre vie, c'est évident. D'un autre côté, si on ne fait que se retrouver entre nous pour s'encourager dans la foi, on sera de plus en plus enraciné. Mais pour quel but? L'Église n'est pas là juste pour tenir bon jusqu'au bout. L'Église est là pour être le sel de la terre et la lumière du monde. Pour ça, il faut qu'elle soit à la fois forte, mais il faut qu'elle ait aussi une vision d'envahir le monde qui nous entoure. J'ai là un petit extrait de ce livre qui est une invitation à avoir un regard différent sur, par exemple, l'impact de l'Église concernant l'évangélisation. Il y a eu plusieurs formes d'évangélisation, et je ne dis pas maintenant on va faire comme ci, on va faire comme ça. Moi, je veux laisser les choses ouvertes pour dire comment Dieu va nous diriger, moi, nous ensemble, ou chacun individuellement dans les prochaines semaines, jours, semaines, mois, parce qu'il a certainement des personnes qu'il aimerait vous faire rencontrer, pour que lui-même puisse les rencontrer. Vous le croyez ça? Que vous allez être un instrument pour rencontrer quelqu'un, pour que Dieu puisse lui dire quelque chose? Alors, dans le passé, je ne veux pas simplement critiquer les méthodes du passé, parce que même si une seule personne a été gagnée par Christ, par ses méthodes, eh bien, c'est une bonne chose. S'il y a eu du porte-à-porte qui a été fait, Peut-être beaucoup de gens ont claqué la porte, mais une seule personne qui ouvre, ça vaut la peine. Vous êtes d'accord avec moi? Vous pouvez distribuer des traités, les mettre dans les boîtes aux lettres par milliers, quelqu'un peut dire ça ne sert à rien, mais si une seule personne ouvre ça, ce traité, le lit et reçoit Jésus, ça vaut la peine. Vous êtes d'accord? Dans le passé, on a eu des réunions de réveil du style pentecôtiste, il y a 20, 30, 40 ans. Les gens faisaient des réunions d'évangélisation. Nous savions qu'au bout d'un moment, l'évangélisation, c'était surtout les gens de l'église qui étaient présents, et des fois 2, 3, 4 personnes extérieures. Donc c'était beaucoup d'efforts pour peu de résultats. Mais une seule personne touchée, et c'est l'éternité avec Dieu pour cette personne. Donc il y a des choses, on ne peut pas dire ça vaut rien. Mais maintenant, il faut se poser quand même les bonnes questions. On a parlé dans les derniers messages sur la bonté. Vois-tu d'un mauvais œil que je ne sois bon? Sur la bienveillance, le regard que nous pouvons avoir sur certaines choses. Quel regard est-ce que vous portez sur votre entourage, sur votre ville ou village où vous êtes? Comment est-ce que vous voyez les choses? Et quand vous essayez de parler ou de penser d'abord croissance de l'Église, toucher des gens par l'évangélisation, quelles sont les choses qui vous viennent à l'esprit? Quelles sont les personnes auxquelles vous pensez? Voilà quelques statistiques. Les chiffres sont ce qu'ils sont, ils peuvent changer. Mais voilà, globalement, comment on pourrait voir statistiquement ce qui se passe en France? Les chrétiens qui vont à l'église, statistiquement, 1%. 1%. Les chrétiens qui ne vont pas à l'église, 1%. Les non-chrétiens qui vont à l'église, 8%. Parce que j'ai dit, il y a des gens qui sont peut-être extérieurement comme des chrétiens, mais au fond, sont-ils à Dieu, sont-ils nés de nouveau? On ne discute pas les pourcentages, simplement pour vous dire. Ça nous fait 10, d'accord? 10%. Ça nous fait 90% de non-chrétiens qui ne vont pas à l'église. Là se trouvent des croyants musulmans, des hindous, des bouddhistes, des juifs, des post-chrétiens, ils étaient chrétiens avant, ou dont les parents étaient chrétiens, qui sont plus, des christianisés traditionnels et ceux qui ne croient pas du tout, agnostiques ou athées. Donc, si vous voyez votre village où là vous êtes et vous dites, j'aimerais que notre église grandisse, je voudrais gagner des personnes à Christ. Qui, Seigneur, qui est-ce que je pourrais toucher? Qui est-ce que je pourrais inviter? En général, on pense à quelqu'un qui est relativement chrétien ou quelqu'un qu'on sait qu'il a la foi mais qu'il ne fréquente pas physiquement une église. N'est-ce pas vrai? Parce qu'on se dit, c'est les personnes les plus proches de nous, elles partagent la même foi. Donc ça devrait être pas tellement difficile pour elles de réaliser que finalement, il y aurait un bénéfice à faire partie du corps local, s'engager et exercer sa foi et mettre en pratique, etc. Mais remarquez bien que si on focalise sur ce genre de personnes, on focalise sur 1% des gens. Une personne sur 100 peut être dans cette catégorie. Et les barrières qui sont dans sa tête sont des barrières tout aussi importantes que des barrières qui peuvent être dans la tête de quelqu'un d'autre. C'est ça qu'il faut qu'on réalise. Qu'une forteresse de pensée dans l'esprit d'une personne, qu'elle soit chrétienne ou non chrétienne, qu'elle aille à l'église, qu'elle n'aille pas à l'église, il nous est dit que c'est par les armes de Dieu, qui ne sont pas charnelles mais puissantes par la vertu de Dieu, de Corinthiens 10, hein, que nous abattons les forteresses de raisonnement. Mais mon point ici, c'est de dire, dans la perspective de remplissage d'église, il nous semble que c'est le plus facile de toucher ce pourcent de personnes qui sont déjà sensibilisées à l'évangile ou qui appartiennent déjà à Dieu. Mais que ce n'est pas, bon, je ne choque personne, ce n'est pas la priorité de Dieu. Vous pensez que c'est la priorité de Dieu? Cette personne, elle est importante, elle est aimée de Dieu. Mais notre Père Céleste se soucie plus des 90% et quelques qui ne le connaissent pas, qui ne font pas partie de la famille de Dieu et qui sont en route pour l'éternité loin de lui. Vous comprenez alors? pourquoi il nous faut des fois changer notre regard sur le monde qui nous entoure. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus rien faire pour les chrétiens qui sont découragés, ou ceux qui sont au bord de la route, ou ceux qui n'ont pas encore compris l'impact que pourrait avoir dans leur vie le fait de participer à une église locale. Mais ça veut dire qu'il faut qu'on commence à voir de notre regard, quand Jésus a dit « Levez les yeux, Jean 4, les champs, la moisson qui blanchit », il a vu venir quoi? Il n'a pas vu venir des milliers de chrétiens. Il y avait là, dans une ville de Samarie, des gens qui ne connaissaient pas Dieu. Ils n'avaient pas de relation personnelle avec lui. D'ailleurs, pour la Samaritaine, la rencontre avec Jésus a été une révolution totale dans sa vie. Elle a, par son témoignage, amené les gens à venir et écouter. Et après, ils ont dit, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons maintenant, mais nous l'avons entendu nous-mêmes. Et le miracle a eu lieu. Nous l'avons entendu nous-mêmes. Donc moi, je suis d'avis que déjà, on renouvelle notre intelligence et on arrête de cataloguer les personnes avec des critères de difficulté. Pour celui-là, c'est impossible. Pour celui-là, c'est très difficile. Pour celui-là, c'est peut-être possible. Mais pourquoi on fait ça? Ça nous sert à rien du tout? Ça nous sert juste à augmenter la difficulté pour nous de croire au miracle de Dieu. Vous êtes d'accord de relever ce défi? De dire, enlevons toutes ces statistiques de pourquoi et comment on ne peut pas gagner ou on peut gagner. Une conversion sera toujours un miracle de Dieu. Toujours. On a cité tout à l'heure les rencontres de Jésus avec des personnes dont la vie a été transformée. On a cité Saul de Tarse. Je suis persuadé que si avec nos critères maintenant, on dirait mais c'est vraiment le dernier qui aurait pu se convertir à l'époque. D'accord? Et pourtant, il a été gagné par Dieu et il en a devancé d'autres. Et il a été un instrument de bénédiction pour beaucoup. Avant d'être chrétien, on était des non-chrétiens. Et on était peut-être dans le même état que certains autour de nous sont maintenant. On ne pouvait même pas imaginer peut-être qu'un Dieu lointain existe, mais qu'on puisse le connaître de la façon dont nous le connaissons. Donc je voudrais vraiment vous lancer ce défi de à nouveau réaliser ce Jean 3,16 où Dieu a tant aimé le monde. Et on sait que quand Dieu aime le monde, ce n'est pas le système du monde, ce n'est pas les valeurs du monde, mais c'est les personnes qui sont dedans. Soyez donc celle de la terre, lumière du monde, pour être là des personnes qui aiment les gens, même si on n'aime pas tout ce qu'elles font ou tout ce qu'elles disent ou l'odeur qu'elles ont ou autre chose. L'Église a son utilité. Et l'Église n'est pas le culte du dimanche matin. L'Église, c'est le corps de Christ, l'ensemble de vous et moi, toute la semaine, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Ça, c'est la réalité de l'Église. Bien sûr, si l'Église ne se rencontre jamais, ça va être un peu compliqué pour bâtir ensemble. Donc, il y a des moments où il faut se retrouver. Mais je ne veux pas focaliser la vie d'Église simplement au niveau des réunions. Je dis que le culte du dimanche matin, ça doit être comme la pointe de l'iceberg. C'est peut-être la seule chose qu'on voit de l'Église, mais ce n'est qu'une partie de l'Église. C'est le résultat de tout ce que nous sommes, chacun d'entre nous, toute la semaine. Ça, c'est juste la pointe qui apparaît. Mais la réalité de l'Église de Jésus-Christ, elle est cachée, comme Christ est caché en nous. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Il est caché, il veut se révéler, vous êtes d'accord ? Il veut se révéler. Mais pour le moment, nous avons juste quelques points comme ça visibles. De la même façon que la vie d'Église, elle n'est visible que par quelques points, mais tout le reste, tout ce qui est derrière, c'est ça qui compte. Alors, qu'est-ce qui compte? Là où est ton trésor, là sera ton cœur. Là où tu investis, là où tu crois, là où tu penses à tes frères et sœurs, où tu penses à prier pour eux, où tu penses à prendre des nouvelles, où tu penses à donner des nouvelles, entretenir des relations, c'est tout ça la vie d'Église. Comme une vie de famille. Avec les petits-enfants sont normalement très en demande d'affection. Vous avez vu ça? Hein, il faut le bisou du soir, etc. Il faut être cajolé et tout. Et puis, quand ça grandit, les enfants, c'est pas qu'il n'y ait plus d'affection, mais ça se manifeste à un niveau différent. Et heureusement. Hein, si le grand garçon de 40 ans voudrait sauter sur les genoux de la maman, ça n'irait plus du tout. Mais donc, les choses évoluent, mais c'est pas parce que ça évolue, que ça prend une autre forme, qu'il faut que les liens ne soient plus aussi étroits et aussi forts. Dans certaines familles, on exprime beaucoup au niveau verbal, dans d'autres, on est plus discret. Et l'amour veut être manifesté. Mais si ce n'est pas votre genre, votre style, ça, vous n'avez pas besoin de copier quelqu'un d'autre. Mais donc, la vie d'église, c'est la même chose que la vie de famille. Ça évolue, ça prend d'autres formes, mais l'important, c'est toujours savoir situer son cœur. Et si quelque chose a pris la place dans votre cœur qui ne devrait pas y être, alors, il nous faut toujours faire ce bilan du cœur. Toujours le check-up, comme on dit. Comme des gens font maintenant le bilan de santé ou des trucs comme ça. Ils font des tests. Et donc, il nous faut faire devant Dieu régulièrement le bilan. Le bilan de où j'en suis. Demandez au Seigneur de vous montrer. Est-ce qu'il y a eu des choses qu'est-ce qui me fait mal? Quelles sont les personnes que j'ai envie de voir ou de ne pas voir? Et Seigneur, pourquoi j'ai pas envie de voir cette personne? Ah, c'est parce qu'elle m'a fait ceci, cela. Et alors, c'est le moment de faire votre travail. Comme vous nettoyez votre corps par la douche ou d'autres choses, vous pouvez faire ce travail, dire « purifie mon cœur ». C'est pas pour rien qu'on chante ces chants pour faire juste joli. Change mon cœur, purifie mon cœur. Rends-moi aussi pur que l'or et l'argent, ces choses qu'on chante. C'est parce que la Bible nous dit « garde ton cœur plus que toute autre chose ». De lui viennent les sources de la vie. On s'endurcit, on laisse un petit peu d'amertume, un peu de rejet, un peu de blessure. Et on en a tous, la vie humaine est faite de ça. Et la seule possibilité qu'on ne soit pas blessé, c'est d'être sur une île déserte. Mais ce n'est pas vraiment la vocation, puisqu'on est fait pour vivre ensemble. C'est comme ça que Dieu l'a voulu. Donc, il y a un temps pour justement échanger, pour vivre ensemble. À quoi ressemble la vie d'église? J'ai dit comme la vie de famille. Il peut y avoir des temps de fête et de célébration. Mais notre vie quotidienne n'est pas fait que de fêtes. Vous faites la fête tous les jours. Il y a, par exemple, ce que j'aime bien comme exemple, j'aime bien l'exemple de le petit garçon qui est invité à un anniversaire. Il vient et il voit, c'est la fête chez ces gens-là. Il y a un grand gâteau, il y a des bougies, il y a plein de choses, des cadeaux et tout. Il rentre chez lui. Il dit, chez les voisins, c'est beaucoup mieux que chez nous. Chez eux, il y a un gâteau, il y a des bougies, il y a la fête, etc. Oui, mais c'était parce que c'était l'anniversaire. Donc, notre vie d'église, c'est pareil. Il y a des sommets, il y a des temps de réjouissance, et puis il y a aussi le quotidien où on travaille simplement à notre foi. On travaille à se nourrir, on travaille à exercer, on travaille à, des fois, résister face aux pressions, aux tentations, et ça en fait partie aussi. Ne soyez pas surpris. D'ailleurs, ça rentre bien dans le cadre de ce que Patrick a lu tout à l'heure. Ne soyez pas surpris d'être dans la fournaise de l'épreuve. Vous êtes éprouvés. Et les épreuves, c'est pas seulement des circonstances extérieures. C'est de savoir comment allez-vous réagir face à telle ou telle pression. C'est ça. Dans le contexte de 1 Pierre 5, les pressions étaient simples. C'était une pression de la persécution où on rejetait le christianisme dans le monde antique. Il y avait une persécution visible, une persécution de la part de l'Empire romain, parce que déclarer que Christ est roi, ça voulait dire c'est un contre-pouvoir par rapport à César. Dans une dictature comme l'Empire romain, c'était inacceptable. Et donc, ça c'était des choses très très pratiques. Mais nous, donc, vivons notre vie d'église avec tout ce qui en fait partie. Donnons la place au culte qu'elle mérite. Quelle est la place du culte? Là encore, on peut se poser la question de Jean 4, où la Samaritaine, elle veut discuter religion avec Jésus. Elle lui dit, voilà, nos pères adorent sur cette montagne. Vous vous dites que c'est à Jérusalem. Alors, on commence une discussion théologique. Où est la vraie église? Où est-ce qu'elle doit se rassembler? De quelle façon elle doit célébrer son culte, etc. Et Jésus dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Tant que vous ne connaissez pas Dieu, vous allez vous perdre en discussions inutiles sur toutes ces choses. Il dit, mais moi je vous annonce une période nouvelle où celui qui adore, il va adorer en esprit et en vérité. Si vous adorez en esprit et en vérité 6 jours sur 7, le 7e jour, quand on vient ensemble, on adore tous ensemble en esprit et en vérité. Et on ne dépend pas de l'adoration des autres. C'est quelque chose qu'il faut qu'on apprenne tous. On ne dépend pas de est-ce que les musiciens sont en forme, est-ce qu'il y a assez d'instruments, et quelle est l'ambiance ou l'atmosphère. Vous venez et vous portez avec vous la présence de Dieu qui est en vous et sur vous 7 jours sur 7 et vous vivez votre culte. Et même si tout le reste est sec et qu'il n'y a rien, on dit mais qu'est-ce qu'il y a, je reçois rien avec toi, peu importe, vous n'êtes pas là pour voir qu'est-ce que les autres peuvent me donner. Vous êtes là, vous venez, vous êtes porteur du feu de Dieu qui est en vous et vous le communiquez autour de vous. Et vous devenez alors non pas une sangsue, comme on a dit quelqu'un, la sangsue à deux filles, donne, proverbe 30, mais vous devenez un donneur de sang, littéralement, puisque le donneur de sang, Jésus a donné son sang, nous aussi, on donne notre vie, on donne de la vie de Dieu qui est en nous. Alors levons-nous et bâtissons cette maison de Dieu, une maison spirituelle. Et Dieu a dit, quelle maison me bâtiriez-vous, maison d'Israël? Dans Ésaïe 66, ça a été repris dans les actes des apôtres. Mais quelle maison est-ce que vous voulez me bâtir? Dieu n'est pas intéressé par un bâtiment, ni par une dénomination, ni que le nom du centre chrétien soit le plus grand possible au monde. Dieu est intéressé qu'il y ait une maison spirituelle qui s'appelle l'épouse, le corps de Christ, dont nous sommes une partie. Et quand on voit ces gens qui bougent et qui vont se disperser tout à l'heure, si on pouvait visualiser avec Google Earth du haut du satellite, on verrait des petits points lumineux et qui brillent plus lorsqu'ils sortent d'ici que lorsqu'ils sont rentrés. Parce qu'on a pris le temps d'adorer en esprit, en vérité, de se laisser remplir de Dieu. Voilà l'objectif. Ça ne marche que s'il y a un renouvellement dans notre conception de vivre les cultes, de dire « je veux me laisser remplir de Dieu ». Que m'importe? Si le message est bon, tant mieux. Si la louange est bonne, tant mieux. Mais ça ne change rien que moi je vais là où je vais avec la présence de Dieu en moi. Rappelez-vous, dans 1 Samuel 1, chaque fois que c'était la fête, Anne, qui était stérile, au lieu de se réjouir avec les autres, elle se mortifiait et elle pleurait sur elle-même. Et malgré tous les encouragements, même de son mari qui disait « mais je t'aime, mon amour vaut mieux pour toi que si tu avais 10 fils ». Mais tout cela ne servait à rien. Jusqu'au moment où elle a prié et elle a laissé Dieu la changer. Et il nous a dit alors son visage n'était plus le même. Il y a eu une transformation. Et parce qu'il y a eu cette transformation et cette libération, après les choses ont pu se réaliser. Et elle a eu non seulement un enfant, Samuel, qu'elle a consacré à Dieu, mais encore d'autres qu'elle a eu par la suite. Mais j'ai l'impression que souvent nous, je m'englobe, on est tous pareils. On met les choses à l'envers. Si Dieu me bénit, alors je te servirai. Mais Dieu dit non. Commence à me servir et tu marcheras dans la bénédiction. Commence à m'adorer et tu sentiras ma présence. Et moi je dis, si je sens la présence de Dieu, si je sens l'onction, alors je suis prêt à me lancer dans l'adoration. On le fait toujours à l'envers. N'est-ce pas vrai? La méthode humaine, elle est toujours à l'envers de la méthode de Dieu. Dieu dit, marche et tu seras béni pendant la marche. Avance et je serai avec toi. Et l'homme dit, moi je bouge pas tant que je vois pas que Dieu a fait ceci, cela. On a besoin de changer notre façon de le voir. Donc, levons-nous et bâtissons. C'est dans Néhémie. Alors, je vous rappelle la vision. C'est beau d'écrire de la vision, de la mettre sur une feuille de papier, de la mettre en couleur et en tout ce que vous voulez. Mais tant qu'on la saisit pas, tant qu'on dit pas en quoi puis-je concrètement maintenant faire avancer la vision. Il y aurait des tas de choses qu'on pourrait faire. Mais la vision plus chaleureuse, on avait dit par la communion fraternelle. La communion fraternelle est une des choses les plus difficiles qu'il soit. De la même façon que une des choses les plus difficiles pour des parents, c'est d'avoir des enfants qui ne se disputent pas. Si quelqu'un a la formule, vous me la donnez. Mais dans toutes les familles, c'est la même chose. Parce que le Seigneur a dit, un en pourchassera 1000, deux en pourchasseront 10 000. Dès qu'il y a une unité, il y a quelque chose, une force de Dieu qui se dégage. Et dit, si deux d'entre vous, juste deux, Matthieu 18, s'accordent pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée. Il n'a pas dit si 10 ou 20 s'accordent, il dit ça c'est impossible, même pour Dieu. Mais il a dit si deux s'accordent, si seulement deux personnes arrivent à s'accorder. Il y a une puissance, pourquoi? Parce que pour s'accorder, il faut mettre de côté des choses qui nous sont très personnelles. Tout ce qui est notre intérêt, vous comprenez? Quand deux s'accordent, il faut que chacun soit prêt à poursuivre un but et en même temps laisser d'autres choses de côté. Donc on se dépouille de ce qui est inutile pour s'accorder juste sur l'essentiel. À ce moment-là, Dieu bénit et il peut répondre à la prière. Et de la même façon, quand on vient, on est là, on a une certaine communion fraternelle. Moi je dis qu'il y a une communion fraternelle, une réelle dans cette église. Mais il y a une certaine communion fraternelle parce qu'il y a aussi beaucoup de choses, puisqu'on est différents, où chacun le voit de sa façon, le vit de sa façon. Et c'est là qu'il faut qu'on apprenne pour certains points à nous dépouiller de choses particulières pour dire oui, mais au moins on se fixe sur ces objectifs. Ça, on le veut. On veut qu'il y ait une personne qui ne connaît pas Jésus, qui est en route pour l'enfer, puisse maintenant trouver Dieu. On peut s'accorder sur ça. On peut peut-être pas s'accorder pour tout, mais on peut s'accorder sur certaines choses essentielles. Donc, on peut s'accorder de dire communion fraternelle plus chaleureuse, une vision plus avec plus de profondeur en devenant disciple. On est tous à appeler disciples. Jésus n'a pas dit « faites des chrétiens », il a dit « faites des disciples ». Le mot « chrétien » n'existait même pas. Des disciples, des gens qui se laissent transformer par la parole de Dieu. Pour ça, il faut la connaître. Et moi, je ne veux pas, entre guillemets, je le dis maintenant très humblement, vous assommer d'enseignements bibliques. Je veux vous donner des enseignements, je veux donner aussi des exhortations, je veux donner des prédications, et je veux que vous puissiez prendre la parole, et je veux qu'on ait des invités qui apportent d'autres types de ministères. Je veux que ça soit large. Mais néanmoins, si on n'a pas un minimum pour pouvoir se discipliner, on ne deviendra pas disciple. Il n'y aura pas de profondeur. Et quand vient l'orage ou ce que vous voulez, le torrent, la maison ne reste pas debout. L'Église est plus forte, j'en ai parlé, adorée en esprit et en vérité. Votre qualité d'adoration fait votre force de chrétien. Qu'est-ce que c'est l'adoration? C'est pas on chante d'une façon très mélodieuse avec de beaux instruments. L'adoration, c'est on ne le voit plus que lui seul. Le reste ne compte plus. Comme les gens dans les évangiles se prosternaient, mon Seigneur, mon Dieu, il n'y avait plus rien d'autre. Et ça leur était égal qu'il y ait les chefs religieux et toute la troupe et tous les gens autour en disant, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu te jettes par terre devant un homme. Plus rien ne compte, il n'y a plus que lui. C'est ça l'adoration. Que vous ayez des temps dans votre vie où il n'y a plus que lui. Comme sur la transfiguration sur la montagne, ils ne virent plus que Jésus seul. D'abord, ils sont intrigués. Oh, son visage rayonne, il est tout blanc et tout magnifique. On devrait rester là-haut, on devrait faire un camp. On a vu même Moïse et Élie, vous rendez compte? Et toutes ces choses qui semblent très merveilleuses et importantes ne comptent plus quand il nous est dit, ils ne virent plus que Jésus seul. Moi, je suis un prédicateur pour Jésus seul. Parce que en lui, nous avons tout. Et quand on essaye de rajouter plein de choses autour de Jésus, ça nous disperse de l'adoration de mon Seigneur et mon Dieu, Jésus seul. Apprenons à le rétablir comme roi à la tête de son Église. Une Église plus influente par les ministères en action. On a tellement de façons de servir. Moi, je refuse que le ministère ne soit que par excellence un ministère de la parole. Non. Les ministères en action, c'est vous tous. Si vous rendez service à votre voisin, si vous faites quelque chose pour quelqu'un autour de vous, vous êtes un ministère en action. Si vous faites du bien dans votre famille, si vous vous rappelez de vos parents âgés, ou si vous rendez un service à des gens dans la famille ou d'autres choses, vous êtes des ministères en action. Voyez-le comme ça. Vous êtes de vrais ambassadeurs. Vous n'êtes pas de deuxième rang. Et un jour, si vous êtes fidèle, vous aurez une promotion. Vous aurez le droit de venir ici pour parler au micro. Non, c'est une idée erronée. C'est une idée complètement erronée. Vos actions parlent plus pour les gens que des messages qu'ils n'écoutent pas. Vous êtes la Bible qu'ils lisent. Quand ils vous voient, ils voient à tort ou à raison, l'image de Dieu et du chrétien. Donc soyez dignes de cette appellation de chrétien. Que ce soit pas pour vous un maintenant quelque chose que je dis qui va vous peser sur vous, oh là là, faut que je porte cette responsabilité d'être chrétien. Non, c'est un privilège que Dieu vous donne. Que quelque part, votre lumière, même si elle vous semble toute petite, mais vous voyez, la bonne nouvelle, c'est que quand il nous est dit que nous sommes dans une période où les ténèbres grandissent de plus en plus, quand les ténèbres sont très épaisses, même une toute petite lumière se voit. Et quand il fait grand jour, ben, même un grand feu, vous ne le voyez pas. Donc, c'est pour ça que Jésus a dit, quand vous voyez ces choses approcher, levez vos têtes. C'est le moment où vous pouvez dire, c'est pour une période comme celle-ci que Dieu a voulu que je vive sur terre maintenant. Alors, à quoi ressemble l'épouse? Il y a toutes sortes de gens. Les gens se marient, ils choisissent un conjoint. Souvent, ils choisissent sur l'apparence. On flash sur le coup de foudre. Et puis, maintenant, on a tellement de possibilités. Si votre femme, maintenant je parle pour les hommes, si elle n'est pas blonde, elle peut le devenir. On peut changer la couleur des cheveux et ou l'inverse. On peut faire plein de choses. Donc, mais je me suis dit, est-ce que l'épouse de Jésus lui convient en tant qu'époux, ou est-ce qu'il voudrait qu'elle change? Parce qu'on dit, si on aime vraiment, on aime l'autre tel qu'il est. C'est vrai? N'est-ce pas vrai? On l'aime tel qu'il est, mais pourtant, on peut s'arranger. Jésus aime son épouse telle qu'elle est. Pourtant, la Bible nous dit, l'épouse, elle va se parer. L'Église va se parer comme une épouse se prépare pour son époux. Donc, elle se prépare. On sait bien tout ce qui est maintenant autour des mariés, hein, tout ce qu'il faut faire. C'est maintenant une grande liste de c'est devenu quelque chose de très complexe, hein, un mariage. Parce que pour qu'il soit réussi, il y a une longue liste de toutes sortes de choses qui doivent être réalisées. Mais tout ça, c'est le folklore. L'important, c'est que l'épouse et l'époux vont se rencontrer. Et ils vont vivre heureux. Mais nous savons que dans la réalité, Jésus attend de son épouse qu'elle se pare. Et là, la Bible nous dit de quoi? De bonnes œuvres. Elle ne dit pas qu'elle se pare de choses, je ne sais quoi. Je pense, je ne suis pas du tout contre maquillage ou coiffure ou toilette, ce n'est pas la question. Mais je pense qu'il y a une façon artificielle de se parer et il y a une façon qui correspond peut-être à la personnalité ou à d'autres choses. Et je crois qu'il y a une similitude avec l'Église. L'Église, corps de Christ, peut se préparer pour, soi-disant, l'époux, mais n'est en train que de se parer d'une façon artificielle pour le monde. Mais moi, j'aimerais que le monde ne découvre pas une fausse Église. Disons, venez à Jésus et tout sera merveilleux. D'ailleurs, nous avons la preuve ici. Demandez à chacun ici, leur vie, elle est merveilleuse. Elle est 100%, sans problème. Vous voyez, ça c'est une façon où l'Église se pare artificiellement. Je dis non, nous avons besoin de voir la réalité de notre vie. Pas une vie misérable, une vie riche en Dieu, mais une vie avec ses difficultés et aussi une vie où nous trouvons des solutions dans la parole de Dieu. Et moi je dis ça c'est les bonnes œuvres dont l'Église doit se parer. Donc l'Église, elle a été faite pour l'homme, pour la femme que nous sommes, et non l'inverse. On a dit que notre vision, c'était une vision d'Église plus, quelque chose en plus, quelque chose qu'on ne trouve pas ailleurs. Et donc la question, c'est est-ce que tu es un plus dans ce monde? Ou est-ce que tu es un minus? C'est un petit jeu de mots. En allemand, ça marche mieux. Hein. Minus, c'est le moins. Et donc un évangéliste a dit, mais quand Dieu vient, il descend et transforme le moins en plus. Dieu, dans notre vie, de ce que nous étions, il transforme pour que nous soyons quelque chose en plus. Et du négatif, on transforme dans le positif. Nous apportons quelque chose. Est-ce que tu veux bien te parer des bonnes œuvres? Est-ce que tu veux participer à ce cycle de la vie? Vous rappelez le cycle de la vie? On en avait déjà parlé. Nous naissons, on grandit en Christ, on se forme. Quand on en est formé, c'est en vue de quelque chose. Alors on exerce le ministère. J'ai dit, on est tous dans le ministère. Et quand nous sommes dans le ministère, qu'est-ce que ça fait? Ça porte du fruit. Et c'est le cycle de la vie, parce qu'il y a une nouvelle vie qui vient de cela. Et ça continue. Et cette nouvelle personne, elle peut de nouveau grandir, se former, exercer le ministère. C'est le cycle de la vie dans le naturel. C'est comme ça que ça marche chez les êtres humains. Dieu l'a voulu comme ça. Il nous a créé une planète spéciale pour qu'on puisse habiter. Il nous a formé un corps pour que notre esprit, créé selon Dieu, puisse habiter dans cette habitation qu'est notre corps pour un temps. Et donc, nous sommes dans cette dimension. Laissez le cycle de la vie, Jésus est la vie, agir en vous. Et en conclusion, j'aimerais simplement dire ceci. Je pense à un site web. Donc c'est à la mode maintenant, hein, qui les entreprises, tout le monde a besoin d'avoir un site où ils se présentent. Où... Notre site, nous avons choisi que nous n'avons rien à vendre parce que nous avons besoin dans ce monde de faire comprendre aux gens que nous voulons leur donner quelque chose. Et nous ne voulons pas les attraper pour voir en quoi pourrais-je bien me servir d'eux pour les tromper en quelque sorte. Et donc, on se présente sur le site et j'ai pensé par rapport à l'Église, qu'est-ce qui se passe? L'Église, on a dit, c'est la maison de Dieu, elle est en construction. On peut dire c'est le chantier dans l'Église. C'est toujours le chantier dans l'Église. Elle est toujours en chantier. D'ailleurs, l'Église n'est pas destinée à ce que nous soyons à un moment donné tous adultes. L'Église est destinée à ce qu'il y ait toujours des petits-enfants, des jeunes gens et des adultes. Il faut toujours qu'il y ait toute cette vie présente. Et maintenant, quand on va sur un site web, vous avez des fois des sites qui sont simplement en construction. Vous pouvez y aller, vous regardez une page, pour ceux qui connaissent un petit peu, vous regardez une page, vous êtes content, vous avez des infos, etc. Vous allez sur la deuxième page et on vous dit en construction. Ou alors en travaux, revenez bientôt. Et je me suis dit, les gens, ils veulent qu'il y ait du neuf. Dans la vie, il y a toujours du neuf, il y a des choses qui se passent, il y a des choses qui évoluent. Et si au bout d'un moment, il n'y a rien de neuf, on n'y retourne plus. Parce qu'il ne se passe rien. Et alors, informatiquement, on dit que le site, il est mort. Les gens n'ont plus intérêt à y retourner. Parce que les fois où ils sont allés, ils ont toujours trouvé la même chose. Alors, notre défi, c'est que dans notre vie, il y ait toujours quelque chose de neuf de la part de Dieu. Vous n'êtes pas appelé à témoigner de ce que Dieu a fait pour vous il y a 20 ans ou 15 ans. Vous êtes appelé à témoigner qu'est-ce que Dieu a fait pour vous ce matin, ou hier soir, ou dans la semaine écoulée, maximum. Maximum, c'est un défi que je lance pour chacun d'entre nous, de dire maximum une semaine. Si vous n'avez pas été là pendant 2 semaines, alors je vous laisse 15 jours. Mais sinon, témoignez de Dieu, de la réalité qu'il est pour vous maintenant. Parce que vous ne pourrez pas, de toute façon, il y a des personnes que vous aurez du mal à convaincre. Si vous dites oui, Dieu m'a guéri surnaturellement il y a 15 ans, etc. Ça va peut-être moins leur parler de dire, mais que vous leur parliez comment vous avez surmonté votre stress avant-hier quand vous étiez au boulot ou comment des choses comme ça. Moi, je suis persuadé, c'est ça qui parle aux gens, de dire mais comment tu fais toi? Je vois que tu as la même vie que moi, tu as les mêmes pressions, tu as les mêmes défis. Donc, donnons notre solution. Nous avons quelque chose, on peut le dire ensemble, nous avons quelque chose qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Amen. Prions ensemble. Seigneur, nous voulons te remercier et continuer de fixer nos regards sur toi. Parce que tu as prévu pour nous une vie avec toi, une vie au quotidien. Parce que tu es le seul vrai Dieu et tu es le vivant. Merci Seigneur, parce que avec toi, nous avons toujours du neuf dans notre vie. Parce qu'il nous est dit, les compassions de Dieu ne sont pas à leur terme. Tes bontés se renouvellent pour nous chaque matin. Elles se renouvellent tout d'abord pour nous qui croyons. Mais en réalité, c'est chaque être humain sur cette planète qui peut être au bénéfice de la grâce de Dieu. Aide-nous Seigneur à encore faire passer le message que tu es un Dieu qui est bon, qui aime chacune de tes créatures, malgré tout ce que nous pouvons voir de négatif, de toutes les maladies, les persécutions, les crimes qui se produisent, mais pourtant tu es vivant. Seigneur, augmente encore en chacun d'entre nous aujourd'hui cette conscience de cette présence de Dieu. de ta bienveillance et de ta bonté. Renouvelle en nous, dans cet amour que tu as déposé au plus profond de nous, et que des fleuves d'eau vive coulent de notre sein. Amen.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.